Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour entendre, écouter Jean-Paul Dubois qui vient nous présenter son dernier roman, plutôt son nouveau roman. J'aime pas trop l'expression dernier roman, c'est toujours un peu étrange, qui s'appelle Le cas Schneider. Schneider, hein, je crois.
Schneider, c'est
vrai. Schneider. Et ce soir, on a aussi la chance d'avoir, c'est assez rare, hein, d'avoir à la fois l'auteur et l'éditeur, puisque à côté de Jean-Paul Dubois, on a aussi la chance d'accueillir Olivier Cohen, qui est le directeur des éditions de l'Olivier. Et sa présence est évidemment liée à un événement important. D'une part, évidemment, la venue de Jean-Paul Dubois, mais on peut dire aussi, et peut-être surtout, les 20 ans de sa maison d'édition, les éditions de l'Olivier. Et maison d'édition à laquelle Jean-Paul Dubois est fidèle depuis une quinzaine d'années. C'est ça, à peu près ?
Je ne me souviens plus.
Et maison qui accueille depuis donc 15 ans les romans que publie Jean-Paul Dubois, parmi lesquels on peut citer le dernier qui était le précédent, qui était Les Accommodements raisonnables, et puis aussi par exemple Une vie française qui avait été récompensée par le prix Féminin. Jean-Paul Dubois, outre son activité d'écrivain et de romancier, est aussi, a longtemps été grand reporter, notamment au Nouvel Observateur. Activité qui est maintenant plutôt qui appartient, ou qui est entre parenthèses, ou qui appartient au passé.
Ah non, ça fait 10 ans que j'ai arrêté.
Ouais. Oui, vous avez quelques collaborations de temps en temps à des journaux un peu c'est épisodiques.
Ouais. Très rare.
Très rare, oui. Ouais. C'est donc l'écriture romanesque qui occupe la totalité de votre temps, tout au moins
de travail.
De travail, qui, comme on le verra peut-être, est loin d'être la totalité de votre temps. Alors comment cette rencontre s'est-elle passée, hein, puisqu'on a ces deux interlocuteurs ici, ont peut-être posé la question. Un livre et un travail d'écrivain auprès d'un éditeur, c'est d'abord une affaire de rencontre. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous éclairer sur la façon dont vous êtes rencontrés, la façon dont vous avez eu le désir de travailler ensemble ?
Vous avez dit que Jean-Paul Dubois était fidèle. Mais vous ne savez pas jusqu'à quel point il est fidèle. Parce que quand on s'est rencontrés, j'ai lui proposé de le publier, mais ça fait plus de 20 ans. Hein. Et Jean-Paul m'avait dit que ce n'était pas possible. Non, ouais. On m'avait dit que ce n'était pas possible parce que vous aviez un éditeur aux éditions Robert Laffont et que vous ne pouviez pas le quitter. Je vous ai dit, mais alors c'est sûrement un très bon éditeur. Et vous n'en aviez pas l'air très convaincu, mais en tout cas, une chose était certaine, c'est que vous ne pouviez pas le quitter. Et bon, ben très bien, j'ai compris. Quoi. Et quelques années plus tard, on en a reparlé, et vous m'avez dit que cette fois-ci, vous étiez libre, et que donc nous pouvions nous rejoindre. Et donc j'étais assez inquiet, je vous ai dit, mais il est mort. Et vous m'avez dit non, mais il a été mis à la porte.
Ouais, c'est ça.
Et votre fidélité n'allait pas au point de vous mettre à la porte vous-même. Donc, je crois que c'est ça, hein, c'est comme ça que les choses se sont passées, ouais, plus ou moins.
C'est exactement comme ça, ceci près que l'éditeur en question était un petit peu, j'adorais, humainement, qui était quelqu'un d'adorable, et puis surtout il m'avait offert une tondeuse à gazon. Et non, mais c'est vrai, il m'avait dit, j'en ai tellement marre de te voir écrire sur des tondeuses à gazon ou de tout que tu aies des tondeuses à gazon dans tes livres, je vais t'en offrir une et après tu nous fous la paix. J'ai toujours vous parliez de fidélité, j'ai toujours la tondeuse à gazon et moi j'aimais beaucoup, j'avais très envie de me retrouver à l'Olivier. Et par des chemins comme ça, ça s'est fait le plus naturellement du monde. Mais bon, mais c'est des relations, c'est très compliqué, enfin c'est... Il y a une part d'affection, il y a une part comment dire, c'est très bizarre, quoi. La relation que vous entretenez avec un éditeur, ça ne peut pas se définir sur des termes. Enfin, pour moi, c'est totalement dehors de la littérature, quoi. Moi, il m'a raconté une histoire hier. Il me l'a raconté d'une certaine façon que dans ma tête j'ai re-signé avec lui pour 10 ans de plus et on n'a pas besoin de contrat. Donc pour moi c'est vraiment des choses comme ça, quoi. Donc la vie, ma vie avec les éditeurs, c'est des trucs, c'est à la fois d'avoir du respect profond pour la personne avec laquelle vous travaillez, et puis que ce soit un type qui soit vous raconte des choses qui vous font rire, soit vous offre une tondeuse à gazon, mais c'est hors de la littérature. C'est beaucoup plus des facteurs humains et des facteurs de hasard. Voilà.
Et est-ce que le fait que Jean-Paul Dubois se soit beaucoup intéressé à l'Amérique du Nord, qu'il ait été grand reporter, comme je le disais tout à l'heure, et qu'il ait écrit des textes importants sur la société américaine, en tout cas sur sa vision de la société américaine telle qu'il l'a côtoyée lorsqu'il y était. Est-ce que, étant donné le profil, en tout cas la direction que vous comptiez donner à cette maison, enfin que vous donniez à cette maison d'édition, votre intérêt pour la littérature nord-américaine, ce centre d'intérêt de Jean-Paul Dubois a joué dans votre désir aussi de collaborer avec lui ?
En fait, je ne crois pas. Pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a partagé une grande curiosité, c'est vrai, pour l'Amérique, mais c'était, là encore, c'était pas tellement sous son aspect littéraire. D'ailleurs, je me souviens maintenant, puisqu'on en parle, que je sais plus comment j'avais combiné ça, mais on vous avait proposé, et vous l'avez fait d'ailleurs, je crois que c'était Vogue, le magazine Vogue, de suivre, de passer plusieurs jours avec Richard Ford, qui est un écrivain américain, qui est un ami aussi, dont j'ai publié tous les livres. Et je m'étais imaginé, Dieu sait pourquoi, que ça allait être une rencontre absolument historique entre un écrivain français que j'admirais, que j'aimais beaucoup, et Ford, qui était aussi, bon, qui est une pointure, quoi. Et en fait, ça s'est pas très bien passé, je crois. Ils se sont détestés à la première seconde. Mais et il me semble, j'ai en mémoire une photo où on vous voit jouer au billard tous les deux, non ?
On fait de la moto aussi.
Et vous avez fait de la moto.
Non, c'est pas qu'on se soit détesté, mais bon, je pense que moi, c'est-à-dire que sa femme conduisait, moi j'étais à l'arrière et lui me récitait de la poésie américaine. Et moi j'avais lu tous ses livres et j'avais une image de Ford, d'un type, bon, qui était, je sais pas, tout à fait accessible, quoi. Or, je me suis retrouvé face à quelqu'un, mais c'est toujours comme ça, quand vous lisez les livres d'un type et que vous le rencontrez après, il y a un gros écart entre le réel et le rêvé. Et je me suis retrouvé face à quelqu'un qui me faisait une démonstration, mais peut-être tout à fait naturellement, de son bon goût littéraire et l'étendue de sa connaissance de la poésie. Et c'est vrai que sur des routes de montagne pendant 2-3 heures, ça fait chier, quoi. C'est un moment où on s'est pas du tout détesté du tout, il y a aucune animosité. Moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours adoré ses livres. Une réalité de vie à faire ensemble. L'autre soir, j'ai fait une émission de télé, Updike, dont j'ai lu tous les livres, j'en ai lu 37 ou 38 que j'adore, et on m'a passé un extrait d'une émission qu'il a faite en France où il fait l'éloge de la religion en disant qu'il ne veut pas être le maillon faible, toute une succession de Updike qui croyait en Dieu et tout. Et c'est pas du tout l'image que j'avais de lui, ni qu'on peut avoir de quelqu'un au cours de 35 livres. Donc il y a un gros écart. Je pense que là, c'est plutôt une différence de perception individuelle, ça n'a rien à voir avec les livres.
Mais il me semble, enfin je digresse, mais que si vous rencontrez Philip Roth, il ne vous décevra pas. Enfin, je pense qu'il ressemble à, enfin je ne sais pas exactement quelle idée vous faites de lui, mais il est tel qu'en lui-même, Philip Roth.
Hein, mais les déceptions, c'est pas... Mais Updike, je ne lui en veux pas de croire en Dieu, c'est pas ça, mais... Si vous voulez, je pense que il faudrait jamais rencontrer les gens qu'on aime bien et dont on lit les livres. Il y a trop de... Non, mais c'est vrai.
Alors Jean-Paul, là vous apportez de l'eau à mon moulin, parce que Bon, là, je suis désolé. Si vous me permettez de dire un mot de quelque chose qui s'est passé avant les éditions d'Olivier, quand j'ai débuté dans l'édition, je n'avais aucune idée de ce qu'était ce métier, mais vraiment aucune. Et j'avais été embauché par des gens très très bien, très radicaux, et donc ils m'ont expliqué qu'il allait falloir rencontrer des auteurs, etc. Je dis, moi je ne veux pas rencontrer d'écrivain. Alors, on dit, mais pourquoi tu fais de l'édition ? Je dis, bah, parce que je croyais que être éditeur, ça voulait dire simplement lire et pas rencontrer des auteurs vivants. Parce que la plupart des auteurs que j'aimais étaient morts en plus. Donc j'ai eu un moment, mais c'est tout à fait vrai, hein, je n'invente rien, de grande confusion. Et puis je me suis dit, bon, bah, il faudra que je m'y fasse et que je parle avec des gens. Vivant aujourd'hui, écrivant, et puis ça s'est fait petit à petit. Mais au départ, je craignais d'être déçu, et d'ailleurs, j'ai eu d'énormes déceptions. Des gens que pour qui j'avais une admiration, une folle admiration. Et donc c'est un métier à risque. C'est des métiers à risque parce qu'on est exposé au risque de voir brûler ses idoles. Mais je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça.
Je pense que c'est une mécanique assez simple. Je me suis mal exprimé tout à l'heure parce que la maladresse fait aussi partie de mes caractéristiques. Mais quand vous écrivez un livre, vous avez du temps, vous avez la capacité de revenir, d'effacer, et vous êtes au mieux, disons, de votre... Enfin, je pense que chacun essaie d'être au mieux de sa clarté intellectuelle, de ses capacités intellectuelles, du mot juste. Donc vous avez forcément dans le produit fini le meilleur de l'individu qui l'écrit. Quand je dis le meilleur, c'est le meilleur de son analyse, de sa perception. Tandis qu'à l'oral, quand vous rencontrez des gens qui, face à un moment comme ça, vont être forcément inférieurs à la lecture. Et très souvent, ça n'a rien de mystérieux. Je crois que ça fait partie des mécaniques du cerveau qui, à l'écrit, sont très souvent meilleures qu'à l'oral. Vous êtes beaucoup plus clair. Il y a des gens très brillants à l'oral aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas de règle générale. Mais très souvent, le décalage vient du fait que vous avez 3 heures pour expliquer, ou 5 heures, ou 8 heures pour expliquer quelque chose en 2 pages, ça va être clair. Et vous avez des fois, vous êtes laborieux pendant une heure pour essayer de rendre la même chose acceptable, et vous allez bafouiller votre esprit. Donc c'est assez mécanique, quoi. Ça n'a rien de mystérieux. Et c'est ce que je voulais dire, quand souvent, il vaut mieux lire les gens si on veut savoir la manière dont ils pensent. Voilà. Les écouter, c'est souvent décevant.
Et nous allons le prouver ce soir, d'ailleurs.
On va essayer.
Alors, après la rencontre, il y a le travail, il y a la publication. Jean-Paul Dubois, comment est-ce que vous travaillez avec votre éditeur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il a un regard intéressé et curieux sur ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce qu'il s'informe de ce que vous faites ? Est-ce qu'il vous conseille éventuellement ? Vous remet dans le droit chemin, par exemple ? S'il a le sentiment que vous vous égarez, ou est-ce qu'il vous laisse entière liberté dans votre travail?
Non, moi je pense que c'est... je ne sais pas comment travailler. Enfin, j'ai eu quelques expériences d'éditeur, mais je pense que la façon d'Olivier est peut-être la plus raffinée, la plus intelligente. Ce n'est pas parce qu'il est là, mais c'est vrai qu'au point de vue travail, c'est assez simple. On a des relations extrêmement simples. C'est-à-dire, au départ, peut-être un an avant, je lui raconte une histoire, mais qui n'a rien à voir. Pour ce livre-là, je lui ai un jour parlé d'histoire des ascenseurs, et puis c'est resté en l'air comme ça, comme un ascenseur en panne d'ailleurs, pendant un an ou un an et demi. Après, il m'a dit, est-ce que vous ne voulez pas faire un livre ? Je lui ai dit, bah oui, on va le faire. Le livre s'est fait, je lui ai rendu. Il m'a dit, ça serait bien si vous l'enleviez. Par exemple, ça, c'est pas... on pourrait enlever ça. Et puis on arrive à... Mais c'est tellement simple et sans aucune... Il n'y a ni rigidité de ma part, ni interférence de la sienne. Il a envie d'un livre, je lui en donne un. Et au final, on essaie de faire le produit fini, comme un réel produit fini qui est le plus qui nous paraît le moins mauvais à tous les deux, ou le meilleur pour lui et le moins mauvais pour moi. Et c'est très simple, quoi. C'est quelque chose de... il y a pas de combat, il y en a jamais eu, il y a d'affrontement sur voilà, il y a simplement des fois des maladresses, ce qui est normal, que je fais, et que son boulot c'est de les voir et de me mettre en garde, mais c'est jamais directif, c'est jamais violent, quoi. Et comme je suis assez souple, ce côté-là, enfin, pour avoir quelques, des fois, pour regarder un petit truc. Mais c'est très simple, quoi. Je veux dire, il a très souvent, toujours même raison. Et souvent, on n'en enlève pas assez. Je pense qu'il s'est... Là aussi, ce sont des articulations, quoi. Ça grince pas. C'est naturel. La flexion est naturelle, l'inflexion est naturelle. Mais bon, peut-être qu'on a de la chance de fonctionner comme ça, je ne sais pas. Mais on fait un couple assez simple, ce point de vue-là, quoi.
Il faut quand même ajouter une chose. On pensait que vous n'en êtes pas à votre coup d'essai. Vous avez écrit beaucoup de livres. Et donc, ça serait extrêmement curieux que, après tout ce chemin parcouru, votre éditeur s'imagine qu'il peut vous faire la leçon. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été mon propos, mais avec qui que ce soit. Mais là, encore moins, parce que... Mais c'est vrai que c'est assez difficile à définir, puisque c'est l'auteur qui écrit, l'éditeur, il lit. Et puis, à partir de cette lecture, il y a une conversation qui se traduit par des modifications ou des changements, des déplacements, tout un travail comme ça, un peu de fourmi, finalement. Mais je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus directif, plus arrogant, plus désagréable. Et qu'on me le disait, d'ailleurs, je me souviens d'un auteur qui m'avait dit... Je ne publierai plus jamais un livre avec toi. C'est une expérience tellement épouvantable. J'avais l'impression d'être à l'école avec un maître d'école qui me corrigeait ma copie. Et ça m'avait horrifié. Et je crois que ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné un conseil plus tard, mais qui n'était pas du tout un éditeur. C'était un architecte. Et on parlait d'une maison, c'est très belle, et il y avait un défaut dans une cage d'escalier, dans le pignon d'une cage d'escalier. Et donc je regardais ça avec admiration, et il m'a dit, tu vois, ce qui est beau dans cette cage d'escalier, c'est ce défaut. Et j'ai compris quelque chose ce jour-là, c'est-à-dire que ça n'existe pas, en fait, il n'y a pas de... C'est-à-dire, on ne peut pas juger le travail d'un écrivain, effectivement, de manière normative. C'est-à-dire, bon, il y a des livres qui sont extrêmement mauvais, voire impubliables, mais on ne parle pas de ça. Là, on parle de vrais écrivains qui écrivent de vrais livres. Et donc, il y a tout un discours un peu de circonstances des éditeurs que moi j'ai toujours rejeté sur le jugement littéraire. Je pense que c'est extrêmement difficile d'en parler parce que le jugement n'est pas le mot qui conviendrait, quoi. Mais enfin, c'est quand même un travail.
Et votre catalogue comporte une part très importante de traduction, notamment évidemment du domaine anglo-saxon qui est très important. Et la littérature française a une place aussi forte dans votre catalogue. Il n'y a pas de distinction d'ailleurs entre visuellement sur les livres, domaine français, domaine étranger, ne sont pas distingués. Est-ce que Jean-Paul Dubois vous paraît, comme écrivain, être plus spécifiquement un écrivain français? Est-ce qu'il appartient à la littérature française? Ou est-ce qu'en lui, il y a aussi des choses qui relèvent... vous côtoyez beaucoup la littérature américaine, la littérature anglo-saxonne. Est-ce qu'il est plus proche aussi, d'une certaine manière, que d'autres écrivains de cette tradition? Ou est-ce que vous le mettez délibérément... vous le situez délibérément dans cette tradition littéraire française?
Alors, je vais essayer de répondre de manière nuancée. Est-ce que c'est un écrivain français? Oui, à 100%. Ça n'est pas ce qu'il écrit, c'est pas traduit d'eux. C'est vraiment un écrivain français. En même temps, il y a chez lui un trait qui le rapproche de certains écrivains américains, pas tous, certains, et que j'apprécie beaucoup, et qui le distingue de beaucoup d'écrivains français. Et c'est ce que j'appellerais une certaine indifférence vis-à-vis du, disons, du surmoi littéraire, si vous voulez, hein, puisque tout le monde sait que la France est un pays à part où la littérature est une espèce de religion, hein, où tout lecteur se considère comme un critique littéraire. Les présidents de la République écrivent des livres et parlent de littérature. Les gens parfois se fâchent à cause de livres. Donc on est représente, je crois, un cas unique au monde de fanatiques dont l'objet est les livres et en particulier la littérature. Ça ne veut pas dire qu'on est plus compétent que les autres, mais disons qu'on est plus prêt à s'entretuer, à se disputer ou se mettre en colère à cause de livres. Et en se référant à de grands modèles. Et je sais que ce qui m'a autrefois, maintenant, les écrivains français ont beaucoup changé, je trouve, la nouvelle génération. Mais dans la génération des gens de mon âge, ça m'a souvent exaspéré de voir des écrivains absolument paralysés de terreur à l'idée que, dès qu'ils écrivaient une ligne, toute la littérature française de Chateaubriand à Roland Barthes se penchait par-dessus leur épaule, disait « Ah non, ça va pas, ah non, c'est affreux, non, non, il faut pas y faire comme ça ». C'est ça que j'appelle le surmoi littéraire français, que je trouve, qui, disons, pendant longtemps, a été assez inhibant pour les écrivains. Et en revanche, ce que moi, j'ai souvent aimé chez les écrivains américains, c'est cette absence d'intimidation par la littérature. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas cultivés, hein, pas du tout, ce n'est pas ça que je dis. Hein. Certains, il y a même eu des malentendus. On a dit par exemple que quelqu'un comme Raymond Carver, par exemple, que j'ai bien connu, était un écrivain minimaliste qui écrivait des petites histoires. En fait, c'était un homme extrêmement cultivé, passionné de littérature russe, de poésie. Enfin bon,
et tu aurais écrit d'ailleurs un grand roman s'il avait pu vivre, puisqu'il travaillait.
Peut-être.
En tout cas, il travaillait à l'écriture de la forme longue.
Voilà. Ouais. Mais disons, pour répondre précisément à votre question, je pense que Jean-Paul Dubois est un écrivain absolument français par l'écriture, la phrase, le grain de l'écriture et par les thématiques. Mais il a une sorte de, depuis toujours, je trouve, une espèce de liberté qui m'a plu d'emblée, à une époque, c'est vrai, où j'étais un peu déçu par des écrivains français qui vivaient sous cette espèce d'intimidation littéraire et française, et puis aussi parce que la France a aussi ce site particulier, et qui, je crois, est aussi unique au monde, c'est ce qu'on a appelé à une époque le nouveau roman, c'est-à-dire l'idée selon laquelle il ne fallait plus écrire de romans tout en continuant à en écrire. C'est-à-dire qu'il ne fallait plus qu'il y ait de personnages, il ne fallait plus qu'il y ait d'histoire. Ce qui était sur un plan théorique absolument passionnant et excitant, mais sur le plan des résultats, moi, m'avait toujours paru extraordinairement décevant, parce que moi, j'ai toujours aimé les histoires et les personnages. Mais bon, je suis pas, chacun est libre d'aimer ce qu'il veut. Hein. Donc, moi, Jean-Paul Dubois est un écrivain français libre comme un Américain.
Alors, des personnages dans ce roman, comme vous le disiez, qui fait suite à un certain nombre d'autres que Jean-Paul Dubois a écrit, donc des personnages, on en trouve un certain nombre. Et puis, comme dans beaucoup de livres précédents, notamment un couple, hein, il y a souvent... l'armature du roman fonctionne, chez Jean-Paul Dubois, fonctionne souvent autour d'un couple. Et on retrouve donc un couple qui porte des prénoms que d'autres couples, dans des romans antérieurs, ont porté aussi, hein, Paul et Anna. On retrouve aussi l'Amérique du Nord, hein, qui a déjà été présente dans certains de vos romans précédents. Ici, c'est le Canada. Et on retrouve encore certaines choses qui sont comme des constantes dans votre littérature, comme s'il y avait ce désir de décliner chez vous quelque chose d'un livre à l'autre. Alors, ça va dans les apparences, comme par exemple ces noms qui reviennent, mais peut-être aussi des situations, des rapports, même si quelquefois ils sont inversés. Il y a toujours un personnage plus fort, plus dominant. Il y a souvent un personnage qui souffre et un personnage qui s'en sort beaucoup mieux. C'est quelquefois l'homme, c'est quelquefois la femme. On va voir qu'ici, le personnage fort, c'est, dans ce couple-là, c'est une femme. Alors, est-ce qu'il y a aussi dans cette variation que l'on trouve d'un roman à l'autre sur des constantes, est-ce qu'il y a aussi est-ce que c'est aussi un jeu avec le lecteur? Puisqu'il y a beaucoup de lecteurs qui vous suivent d'un roman à l'autre. Et c'est aussi un jeu donc, qui consisterait un petit peu à susciter chez lui cette attente, cette curiosité, voir les écarts. Et puis c'est peut-être aussi quelque chose qui serait une variation autour de vous-même aussi, peut-être, peut-être aussi de votre part, l'attente de la part du lecteur de voir un petit peu ce qui est de lui, ce qui n'y est pas. Vous jouez aussi avec des similitudes et des distances. Comment est-ce que vous vous situez dans cette présence de constante là dont je parlais, dans le rapport au lecteur? Est-ce que ce sont des appels que vous lui faites? C'est un jeu avec lui?
Je vais vous décevoir après le long développement que vous voulez de faire, mais non, c'est pas. Je pense que ça marche pas. Enfin, pour moi, ça marche pas du tout comme ça. Mm-hmm. C'est plutôt si j'avais à l'expliquer, parce que c'est toujours intéressant de déconstruire les choses une fois qu'elles sont faites. C'est essayer de voir, de deviner le cheminement d'une obsession. C'est-à-dire que sur, mettons, 10, 15 ou 20 livres, vous apercevez qu'il y a une colonne vertébrale d'obsessions, de personnages, de choses. Et vous apercevez qu'en définitive, que c'est vous reconstruisez de livre en livre un univers qui vous est familier. Comme quand vous écrivez à la première personne, c'est ma voix que j'entends, c'est un acteur que je mets à la place du... C'est des trucs d'enfant. Le problème, c'est que je dois parler en tant qu'adulte d'une relation avec le travail d'écrire qui est presque enfantin. C'est-à-dire que quand j'écris une histoire, je ne fais que reproduire la voix de ma mère ou d'un quand j'étais gamin qui me raconte une histoire. Et je suis capté par la voix. Donc quand moi j'écris une histoire, je ne pense pas au lecteur, ni à moi, ni à personne. Je me dis voilà, tu es l'oreille qui écoute et ce que tu écris, c'est la voix qui va te parler. Donc ça se passe grosso modo techniquement aussi simplement que ça. C'est-à-dire c'est une voix qui parle. L'écriture, c'est ce cheminement. L'environnement, c'est toujours le même. C'est-à-dire ça fonctionne avec quoi? La vie fonctionne avec des repères identiques que vous allez replacer. Enfin, quand vous avez une tendance obsessionnelle qui est plus ou moins aggravée chez nous tous, je veux dire, moi, c'est évident que je fais partie de ceux qui en ont une à marquer et qui se traduit comme ça et qui va se traduire par des univers qui sont à peu près similaires parce que les obsessions d'une vie sont à peu près identiques. C'est quoi? C'est l'inquiétude d'être au monde, les relations avec les autres, le travail de transmission d'un père à un fils ou à une fille, de ce qui précède, le fardeau de l'hérédité, de la mémoire. Donc ce sont des choses assez communes, qui sont très complexes à développer, mais qui sont extrêmement communes à nos vies. Et les livres, ils vont se construire autour de quoi? Quand vous avez, bon, ça dépend, enfin, il y a toutes sortes de livres et d'écritures, mais quand vous faites ce genre d'écriture-là, qui est d'ailleurs le roman, c'est assez fermé, quoi. C'est du scope en image, mais c'est très intime au point de vue. Les voix qui parlent sont des voix de gens qui sont fermés de l'intérieur, comme le disait le Vigan. Donc ça revient de livre en livre, quelle que soit l'histoire. Et la mécanique de la narration est toujours la même. Et qu'est-ce que c'est que... Alors il y a le style, on peut parler du style, mais moi je pense que le vrai livre, la vraie sensibilité qu'on retrouve dans un livre, c'est la narration. C'est-à-dire c'est la voix qui va, que vous allez écouter. Après, le style et tout ça, c'est autre chose. On peut... Mais c'est cette voix qui va vous parler. Cette voix qui va vous parler, ça va être la voix de votre enfance, de votre mémoire, qui va retrouver une résonance ou pas dans ce récit-là. Dans l'intimité qu'il va y avoir entre la proximité, qui ne veut pas dire, dans le bon sens du terme, la proximité de la voix que vous allez écouter. Elle y est ou elle n'y est pas, ça marche ou ça ne marche pas. Mais moi, ce que je recherche, c'est essayer de raconter tout simplement quelque chose d'intime et de le cerner presque de façon scientifique, aller récurer, aller chercher, aller... voilà.
Mais il y a quand même une dimension ludique ou non, alors dans ces signes explicites, ces rappels, les prénoms, non, les détails.
Plus,
les...
C'est plutôt médical, quoi. C'est plus médical que ludique. Il n'y a pas de... Moi, il n'y a jamais de jeu dans l'écriture. Bon, les tondeuses à gazon aussi, des trucs comme ça, mais parce que vous avez lu 30 articles où on vous dit, voilà, il va encore nous parler de tondeuses à gazon. Mais c'est, ça fait deux lignes dans un livre. Ouais, quoi. Le jeu, par exemple, il y a trois chiens, ce sont mes trois chiens, je les mets dedans, mais il n'y a que moi qui le sais, et vous maintenant. Mais c'est des petits trucs, mais c'est pour soi, c'est jamais... Je pense qu'on ne peut pas écrire. Moi, je n'ai jamais pensé une seule seconde aux gens qui lisaient les livres, parce que ça n'a aucun sens. Parce que ça serait vous mentir, ça serait malhonnête, ça serait incroyablement intimidant, prétentieux de savoir que votre petite histoire peut intéresser des centaines ou des dizaines de milliers de gens. C'est pas raisonnable. Mm-hmm. En revanche, vous écrivez pour quelqu'un qui vous est proche. Voilà. C'est-à-dire que cette personne-là va vous accompagner. Si vous perdez quelqu'un de votre famille, cette personne-là va être très proche de vous pendant la période où vous allez écrire ce livre. Ça peut être quelqu'un de votre vie présente, passée, que vous aimez, qui est très proche de vous, qui va vous... L'écriture, mais c'est toujours intime, un livre, quoi. C'est jamais public quand vous le faites. C'est quelque chose de très fermé. Et jamais j'ai pensé de faire des clins d'œil au lecteur. Je trouverais ça très prétentieux et très malvenu, quoi. C'est très malvenu. Pour moi, ça serait malvenu. Il n'y a pas de blague ou de dimension ludique. Il peut y avoir des blagues à l'intérieur. Quand vous faites une scène drôle, il faut qu'elle soit drôle pour tous. Mais ça fait partie du cheminement de l'histoire. Mais vous dites pas, je vais faire un clin d'œil au lecteur pour... Ça vient naturellement parce que c'est en vous et ça vient comme ça. Et ça, c'est réussi ou pas.
Alors, vous disiez tout à l'heure que le seul indice... concret du livre que vous avez donné à Olivier Cohen, c'était cette histoire d'ascenseur. On va parler un peu plus maintenant de la matière narrative de ce livre. Mais on pourrait dire aussi que l'ascenseur, l'ascenseur c'est quelque chose qui monte, mais c'est aussi quelque chose qui tombe. Et dans ce livre, moi, ce que je me suis dit en le refermant, c'est qu'il aurait presque pu s'appeler Les Chutes, si ça n'avait pas déjà été pris par... Joyce Carol Oates, évidemment pas du tout pour le même sujet, parce qu'on tombe beaucoup finalement dans ce livre. Hein, beaucoup d'êtres tombent, que ce soit des animaux, des oiseaux tombent, un ascenseur tombe et va évidemment radicalement briser et bouleverser la vie du narrateur. Et puis on tombe aussi socialement. Le personnage et narrateur donc de ce roman va chuter à la fois dans l'estime de son épouse qui n'avait pas une très haute de lui et en même temps socialement beaucoup de gens vont s'étonner des options professionnelles qu'il va prendre. Comment au-delà de la thématique de l'ascenseur, est-ce qu'il y avait aussi un projet qui tournait autour de ça, c'est-à-dire quelque chose qui serait on a toujours l'impression que la vie dans laquelle nous sommes, ça serait peut-être quelque chose qui consisterait à aller de l'avant vers le haut. Là, vous racontez vous l'histoire de quelqu'un qui tombe, qui chute. Comment est-ce que le projet s'est bâti Vous allez me dire, vous êtes parti. C'est vraiment l'ascenseur qui.
C'est mieux que ça parce que c'est. Là, c'est, en gros, ce que vous me demandez, c'est comment se fabrique un livre. Et ça, moi, je ne le sais qu'après. Je ne le sais jamais avant. Il se fabrique, là je peux vous dire, parce que j'ai bien réfléchi à ce truc-là, parce que ça fait aussi partie d'une obsession et des marottes, de savoir pourquoi on fait ce livre maintenant plutôt qu'à un autre moment, celui-là plutôt qu'un autre, cette histoire-là plutôt qu'une autre. Et c'est passionnant pour moi d'essayer de comprendre ça avec les outils de l'analyse, de la psychologie, de la sociologie. Tout. Et là vous me dites, bon effectivement ce sont des chutes, mais ces chutes-là se sont construites à la fois par hasard. Mais ce n'est pas vraiment un hasard parce que c'est le résultat d'une sociologie contemporaine qui fait que le monde actuellement vit une sorte de chute. Mais ça, je ne l'ai jamais intellectualisé ni verbalisé avant. Je reçois un jour un article du New Yorker qui fait 15 pages d'un de mes copains avec qui j'ai très longtemps travaillé à Los Angeles. C'est 15 pages sur l'histoire des ascenseurs. C'était il y a 3 ans. Et ce truc me fascine parce que je découvre la lecture du monde à travers les ascenseurs, c'est-à-dire à travers les verticalités qui créent un monde debout, qui créent une architecture debout équivalente au moment où l'homme s'est levé sur ses pattes arrière, et qui vous explique en gros que le monde que l'on vit n'est possible qu'à travers l'ascenseur. L'ascenseur permet la ville, permet la verticalité, la concentration, enfin, c'est un outil, à la fois l'outil qui est la vertèbre, qui est la colonne vertébrale du monde, et à la fois l'outil de compréhension qui va permettre de comprendre la situation de ces hommes à l'intérieur de l'ascenseur. C'est un modèle réduit du monde, c'est-à-dire les règles qu'ont retiré les psychologues des comportements humains à travers les ascenseurs. Par exemple, c'est une phrase moi, qui ne me quittera jamais, c'est ne jamais quitter une place quand on n'est pas sûr d'en obtenir une meilleure. C'est ce qu'ont observé les gens dans les déplacements des gens à l'intérieur d'un ascenseur, les psychologues à l'intérieur d'un ascenseur. Donc il y a tout un outil pour comprendre l'humanité, pour comprendre la sociologie, l'urbanisme, l'architecture, la psychologie. C'est un outil absolument extraordinaire. Donc je tombe sur ce truc, mais suprêmement intelligent, écrit par un journaliste, je ne sais pas ce qu'il était exactement, mais c'était remarquable, je lis ça, bon. Et puis ce truc, comme ça, ça traîne. Olivier me dit, c'est les 20 ans de l'Olivier, tout ça, c'est le moment. Bah, j'ai dit d'accord. Et je ne savais pas comment j'allais raconter cette histoire. Et puis, je me mets au boulot le 2 janvier. Dans la nuit du 1er janvier, 10 ou 15 000 oiseaux tombent dans un petit village de l'Arkansas. 100 000 poissons tombent au fond de l'eau dans la rivière Arkansas. Des oiseaux tombent par milliers au Japon, en Louisiane, et des crabes par centaines de milliers s'échouent sur une plage anglaise. Et tout ça arrive le 2 janvier, le matin où je me mets au boulot. C'est vérifiable, vous pouvez reprendre les dépêches de l'époque. Et là, bon, il y a l'ascenseur, il y a les oiseaux, et je commence l'histoire sans savoir comment ça allait se... Je savais qu'il y aurait l'histoire de le deuil dans l'ascenseur, mais il y a les oiseaux, il y a la chute, il y a l'ascenseur qui vient, et se construit quelque chose après. Alors pourquoi ça se construit? Parce que je pense que dans notre mémoire enfouie... il y a une accumulation d'informations, de sensations, de sentiments. Il y a une capacité de garder des choses totalement inutiles et fondamentales qui vont nous encombrer pendant toute une vie. Et à un moment donné, sous le fait du ralentissement de l'existence, moi c'est comme ça que je l'explique, vous allez avoir accès à toute cette masse d'informations que vous avez accumulées, enfouie, confusément, et qui du fait que... Parce que quand vous écrivez, vous arrêtez de vivre. Moi, je sais que pendant un mois ou un mois et demi, je ne fais que ça 14 ou 15 heures par jour. Donc j'ai une relation à la vie qui est totalement faussée. C'est-à-dire je ne vis plus normalement. Et je suis quasiment dans un état psychiatrique. C'est-à-dire que mon rapport au temps est complètement décalé. Donc tout ce à quoi je vais réfléchir, je vais y réfléchir au ralenti, exactement comme quand vous allez voir une image de rugby ou de foot qui va être à la vitesse réelle, mais moi je vais la voir totalement au ralenti. Et je vais passer ma journée à la repasser au ralenti, c'est-à-dire image par image. Et la perception qu'on va avoir de cette image dans la vie réelle ne va pas être la même que celle d'un type qui écrit et qui va voir tout ça au ralenti. Donc il va avoir accès à l'image par image, à la mémoire, au ralenti. Et tout ça va prendre une autre dimension. Et c'est aussi simple que ça, en fait, de faire un livre. C'est de ralentir la vie et d'essayer de... Enfin, pas d'essayer, parce que dans ce ralentissement, l'accès à la mémoire va être radicalement différent. Vous allez avoir... Moi, je me souviens, je le dis souvent, quand dans Une vie française, je racontais des épisodes avec mon père. Et pour la première fois de ma vie, alors qu'il était mort depuis 25 ans, j'ai retrouvé le grain, mais je vous assure que c'est vrai, du tableau de bord de sa voiture... du velours des tissus et du parfum de son eau de toilette. Tout simplement parce que j'ai arrêté tout le temps presque, et cette mémoire enfouie, inutile, qui m'encombrait et qui m'encombre et qui nous encombre tous, est remontée tout simplement du fait que elle était stimulée par cette absence. Quoi. Et tout ça est remonté. Et donc, avec l'écriture, moi, je pense qu'on a accès à tout ça, à ce ralentissement. Et les livres se font comme ça. L'ascenseur a ralenti. Vous décortiquez l'ascenseur comme jamais vous n'imaginez que c'est possible. Vous allez avoir accès à votre mémoire, aux oiseaux. Tout ça va s'organiser, mais de manière psychiatrique. Parce que ça n'a de sens qu'après. Mais si vous l'analysez pendant que vous le faites, c'est quasiment psychiatrique. Cette construction, c'est pas normal, quoi. C'est pas sain de raconter des histoires comme ça, d'avoir accès aux détails de sa mémoire, dans tout ce qu'elle a de plus glauque, quoi. Et pourtant, à la fin, ça donne quelque chose qui peut ressembler à la réalité. Donc, c'est la mécanique de la construction d'un livre qui est absolument captivante quand vous le faites après, quoi. Mais essayez de... Alors, c'est là où votre question a un sens. C'est que ça, c'est ma façon de faire. Mais elle est, j'imagine, totalement marginale. D'autres ont des projets sans doute plus aboutis. Mais je pense que dans la construction... Ça marche comme ça, à leur insu, peut-être.
Dans un passage, un texte liminaire avant le véritable démarrage du roman, vous écrivez, le narrateur s'exprime, hein, « Je n'oublie rien, je suis privé de cette capacité d'effacement qui nous permet de nous alléger du poids de notre passé. En le retaillant saison après saison, en lui donnant une forme acceptable, nous nous efforçons de le cantonner dans des domaines raisonnables. C'est la seule façon de lutter contre cette fonction d'enregistrement envahissante et destructrice. Mais quelle que soit l'ampleur de nos coupes, année après année, tel un lierre têtu et dévorant, lentement, notre mémoire nous tue. » Donc finalement, l'écriture, c'est le moyen de lutter contre cet envahissement stérile, finalement cet envahissement qui serait paralysant. Et donc, vous parvenez par l'écriture justement à faire quelque chose, à vous en affranchir et à créer à partir de cela, justement.
Sauf que ce n'est pas construit. Ça marche. Je ne sais pas, moi. Si vous voulez, je vous raconte comment ça se passe. Mm-hmm. Après, je n'ai jamais imaginé que l'écriture pouvait être le moyen d'accéder à ça. Mm-hmm. Mais je constate. Mais là, ce qui serait bien, ça fait partie. Je trouve que les sciences humaines, qui sont. Moi, ça me fascine. Les sciences et les sciences humaines, c'est quelque chose de je sais pas, c'est essentiel. Et je trouve que on ne s'est pas assez intéressé avec les moyens, la technique de compréhension du cerveau, à voir comment fonctionne notre capacité imaginative et à partir de quoi elle construit quelque chose qu'on va essayer, à mon avis, par la suite d'intellectualiser et de rationaliser. Je pense que c'est un fouillis complet. Alors, quelle est la part de la loyauté et de l'honnêteté de chacun pour révéler tout ça? Moi, je pense qu'il faudrait une matière, un peu comme à la psychanalyse pour laquelle j'ai pas, bon, je sais pas, j'ai de gros doutes, mais enfin, peu importe. Il faudrait une oreille neutre, c'est-à-dire une oreille neutre est quelque chose qui travaille de façon neutre sur 10, 15, 20, 30 écrivains qui, le plus loyalement possible, racontent leur façon de faire. Et connaissez, non pas pour... Mais je trouve que c'est très intéressant de savoir, non pas comment un livre est fait, ni pourquoi il est fait, ça c'est l'affaire de chacun et ça n'intéresse absolument pas le lecteur, mais d'un point de vue technique et scientifique, je trouve que c'est intéressant de savoir quel est le mécanisme du cerveau qui va aboutir à la fabrication d'une histoire plutôt qu'une autre, en fonction de la psychologie d'un type, de l'histoire, du moment de l'histoire et de la sociologie dans laquelle il l'écrit, de sa manière de travailler. Il y a tout un tas de paramètres qui vont pouvoir peut-être éclairer et expliquer, pour ceux que ça intéresse, le mécanisme, non pas de la création au sens éthéré comme ça, mais tout simplement de la fabrication. Voilà. Thomas Edison, c'est un écrivain. Voilà. Et la mécanique de son esprit dans la fabrication de son invention, moi, m'intéresse autant que l'invention. Parce que je suis curieux, parce que la question aussi qui revient dans le livre et tout, et qui anime quand même toute une vie, aussi bien dans les sciences et techniques que dans la littérature, c'est comment ça marche. Comment ça marche, nos rapports avec nos enfants, nos parents, la connaissance, la modestie, l'orgueil, la survie, la peur d'être au monde, le rapport aux animaux, la compréhension de la souffrance animale, toutes ces choses-là qui n'ont l'air de rien, je pense à un moment donné, ça serait bien de les ordonner et d'essayer de voir comment notre esprit fabrique le monde. Voilà. D'autant plus quand il est fictif.
Olivier Cohen, vous vouliez...
Je voulais ajouter une chose par rapport à ce comment ça marche, parce qu'il y a une chose qui est bouleversante dans ce livre, c'est que Paul est confronté, Paul Snyder, à une question qui va même encore plus loin, je ne vais pas raconter le livre, mais il y a eu donc cet accident terrible, il est tombé dans le coma, il sort du coma, l'être qu'il aimait le plus au monde, sa fille, est morte dans l'accident. Et donc la question qui se pose désormais à lui, c'est comment vivre ? Après ça, comment est-ce que c'est possible de vivre ? Alors, c'est une question qui se pose dans ce livre d'une manière particulièrement dramatique, violente, radicale, et qui le conduit, comme vous l'avez indiqué, finalement, à se détacher de son existence, et aux yeux des autres, il tombe. Mais moi, je dirais qu'à ses propres yeux, il se détache simplement. C'est comme si la vie qu'il avait autrefois était comme une espèce de peau morte qui tombe, effectivement, qui se détache, et il est nu, et il se demande comment vivre. Mais, après tout ça, il me semble que dans la plupart des grands romans, même s'ils ne sont pas placés sous le signe de l'accident, de la mort, quoi que ce soit fréquent, mais pas toujours, c'est cette question qui est posée. Comment vivre ? Comment faire ? Où trouver son chemin ? Comment être un homme ? Comment être un père ? Comment être une femme ? Comment être une mère ? Qui va vous apprendre à vivre ? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi ? Vous vous souvenez de ce titre extraordinaire d'un roman de Pérec, La vie, mode d'emploi. Ben, c'est la grande question du roman. Et on peut dire que dans une certaine mesure, le mode d'emploi, ben, c'est la littérature. Pour certains, pour Proust par exemple, c'était absolument, il me semble-t-il, assez clair que le mode d'emploi de sa vie, c'était la littérature. Mais cette question, comment vivre ? Elle est au cœur de tous les livres de Jean-Paul Dumoy. Et alors, dans ce livre-là, elle émerge avec une force absolument extraordinaire. Et je pense que c'est une des raisons, sans doute, outre le fait que c'est un très beau livre. Mais il y a une question qui ne le lâche pas, quoi. Il ne lâche pas l'affaire. Hein. C'est du début à la fin, c'est vraiment cette question qui l'obsède. Il a beaucoup d'obsessions, c'est vrai. Que les lecteurs de Jean-Paul Dubois peuvent identifier au passage. Mais la grande question, c'est vivre. Alors, comment on fait ?
Et vous disiez qu'effectivement, ça se pose tout ça avec une acuité, une gravité très, très forte. Donc c'est un livre qui est traversé par une grande mélancolie aussi. Et en même temps, il y a des instants de drôlerie, hein. il y a des prises de distance, on s'amuse aussi quelquefois. Évidemment, il y a le folklore du rapport conjugal qui est parfois très cruel, mais qui, évidemment, il y a une femme très, très dominante qui occupe des fonctions professionnelles qui la mettent largement au-dessus de son époux. Et puis, elle est spécialisée dans la commande vocale. Et elle passe son temps à donner des ordres aussi en même temps. La commande vocale, parce qu'elle travaille dans les télécoms, et elle passe son temps à donner des ordres. Il faudra que tu vois quelqu'un, il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. Évidemment, son mari ne suit pas. Sauf qu'il y a quand même, vous disiez, il y a des obsessions. Il y en a une qui est aussi très forte dans le livre. C'est, faut dire juste quelques mots de la situation des personnages. Paul, donc, est marié avec Anna, c'est un deuxième mariage, et il a eu une enfant d'une première union, et il a ensuite des jumeaux avec sa deuxième épouse Anna, celle avec qui il est au Canada. Ses enfants sont évidemment très grands, adultes, ils ont un métier, mais surtout, ce que ne comprend pas Paul, c'est comment il a pu accepter quelque chose qui relève vraiment de l'inadmissible, de l'infamie totale. C'est son épouse lui a interdit que sa fille voit ses deux frères. C'est-à-dire que la gamine qui vient issue du premier mariage ne peut pas, n'a pas le droit de passer le seuil de la maison. Et le lecteur se pose cette question de savoir comment ce personnage, dont on constate évidemment au fil des pages l'épaisseur humaine, c'est vraiment un personnage extrêmement fort. Et cette contradiction-là, elle est jamais levée, elle ne sera pas levée de toute façon. C'est comment est-ce qu'il a pu accepter une chose pareille ? Jusqu'au bout, on se pose la question.
Je sais pas, mais ça me paraît tellement évident que c'est une construction. Enfin, ça n'est jamais expliqué. La personne qui interdit ça, qui interdit l'accès, explique qu'elle ne veut pas revivre ce qu'elle a déjà vécu. Donc, on ne sait pas quoi.
C'est elliptique.
Mais voilà, c'est elliptique. Je l'ai fait exprès comme ça parce que ça symbolise, je trouve, le fardeau des familles. Voilà. Il y a quelque chose dans une... Il se passe quelque chose dans une famille et ça va durer une, deux ou trois générations. C'est l'histoire de la mémoire du début. Il y a quelque chose... C'est le fardeau qu'on va porter. Il accepte ça parce que ça fait partie de l'inacceptable qu'une famille se doit de vivre. Même si c'est d'une lâcheté absolue, c'est douloureux pour tout le monde, à commencer pour lui. Mais je trouve que dans la construction d'une famille, et si l'on veut qu'une famille puisse tenir à peu près debout... Il y a toujours, il me semble, dans le coin de nos vies, un acte d'une profonde lâcheté qui est la compensation, qui est le prix à payer pour conserver quelque chose en l'état. Alors, est-ce que c'est de la lâcheté et tout ? Mais moi, je pense que ça fait partie de la construction humaine aussi, de considérer que... À l'intérieur d'une famille, je ne parle pas dans la société, qu'à l'intérieur d'une famille, il est tout à fait concevable de supporter l'insupportable, d'accepter l'inacceptable pour sauver quelque chose. Alors, c'est selon les sensibilités de chacun, ça peut être très varié, mais je pense que les familles ne peuvent se construire que là-dessus, elles ne peuvent se construire que sur la douleur et le conflit. Jamais les familles ne se construisent sur le bonheur. Temporairement, oui, mais sur la durée d'une vie, toutes les familles sont construites sur des drames, ou sont porteuses de quelque chose de dramatique et d'une extrême violence. Donc cette histoire-là, elle n'a aucun intérêt, mais elle est emblématique de la mémoire avec laquelle on va devoir vivre et de cette douleur qui va nous parcourir toute une vie, dont on va être le seul, dont on ne sera jamais l'auteur, dont on n'a jamais été l'auteur, mais dont on va payer le prix. On va appeler ça la lâcheté, on va appeler ça tout un tas de choses, mais je pense que ça arrive dans l'histoire comme ça, comme un marqueur, c'est-à-dire ça n'a aucune importance, mais c'est là.
Et Olivier Coël, tout à l'heure, disait que ces chutes, c'est aussi une sorte de forme du détachement, et que Paul va peu à peu donc se détacher de son ancienne existence pour essayer peut-être de prendre justement cette distance nécessaire à la reconstruction. Et il va faire des rencontres. Et il dit à un moment dans le livre, je ne sais plus à quel, vers la fin, qu'il a perdu sa fille, qui était le seul être finalement important dans sa vie, puisqu'on n'en a pas parlé, mais les deux jumeaux qu'il a eus avec Anna ne sont absolument pas pour lui des objets d'amour. Ni d'ailleurs, il n'a pas d'amour pour eux. Hein. Ce sont des êtres qui l'indiffèrent, voire qui vont d'ailleurs susciter chez lui de plus en plus de colère jusqu'à la haine. Et eux-mêmes, d'ailleurs, n'ont pour lui aucun geste d'amour. Donc le véritable sujet et objet d'amour, c'était sa fille. Il dit qu'il l'a perdue. Il a aussi perdu ses parents il y a pas mal de temps. Et il n'a plus personne, il ne sait plus, il n'y a plus de regard sur lui. Il ne sait plus qui il est, il ne sait plus où il est. Et donc, ces rencontres vont être, je crois, la rencontre aussi d'autres regards qui vont lui permettre peut-être de se reconstruire. Et ça va aller jusqu'au regard des animaux, puisqu'il va devenir dans sa dégringolade sociale, il va prendre un job d'étudiant, qui est promeneur de chiens, pour un chenil de Montréal. Et finalement, des liens, alors qu'il n'avait aucun intérêt particulier pour les chiens, de véritables liens, notamment des liens par le regard, vont se nouer à travers sa relation à ses chiens. C'est quand même quelque chose aussi de très singulier que ça passe aussi par là.
Quand vous vivez avec des animaux, plus vous vivez avec des animaux et plus vous vous apercevez, là aussi, que la proximité est plus évidente qu'on ne le croit, quoi, que les relations de compréhension, d'une forme d'intelligence, qui est, faut pas, moi je suis pas, je fais pas partie des gens qui disent qu'on est plus heureux avec des animaux qu'avec des humains, c'est pas du tout ça, mais vous apercevez que il y a une forme de neutralité dans la relation avec l'animal qui n'attend rien, qui n'espère rien, qui est dans une sorte de constante bienveillance, qui ne juge pas. Et je, dans le cadre du personnage et de son il est totalement déshérité, quoi. Cette proximité est quelque chose aussi qui est, je dirais pas réconfortant, mais qui va lui donner aussi une autre lecture du monde, un autre rapport au monde. Vous arrivez à vivre très facilement avec un animal. Mais quand je dis vivre avec un animal, c'est un membre de votre univers, très très facilement. Ça s'impose, ça ne se réfléchit. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Moi, je sais que tous les soirs, ma chienne me parle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, c'est ridicule de dire ça. Mais elle s'assied, elle se met face à moi, elle n'aboie pas. Et elle fait un bruit de gorge. Elle me regarde comme ça, fixement, elle me parle. Et ça fait des années que j'essaie de comprendre ce qu'elle dit. Mais elle veut toujours quelque chose. Et je ne suis pas du tout ce qu'on appelle une mémère à chien-chien. Ce n'est pas du tout comme ça. Mais vraiment, c'est troublant. Vous vous retrouvez seul avec un animal qui s'assoit face à vous et qui attend quelque chose de vous. Et vous ne savez pas quoi. Mais vous savez véritablement qu'il attend quelque chose de vous et qu'une relation très étroite et très étrange va se passer pendant des années, quoi. J'ai un autre chien, je peux raconter l'histoire de chien, c'est ridicule, mais non, mais c'est pour vous expliquer aussi comment ça fait partie aussi de la fabrication du livre. Je vais promener ma chienne un jour au bord de l'eau, et à ce moment-là un chien nous suit. Et un petit chien abandonné de quelques mois, et il suit la chienne, comme ça, et nous raccompagne à la maison au bout de 2 heures. Et ce chien s'installe à la maison, il y est toujours, ça fait des années, et il est là. Et ce chien, je ne sais pas d'où il vient, je ne sais pas comment il s'appelle, Charlie, il s'appelle Watson, et la chienne s'appelle Charlie, et un soir, bon, comme je me couche assez tard, j'ai des horaires nocturnes, et la chienne va dans le champ comme ça, j'en avais marre, et je dis au petit qui était là, au petit chien, je dis, va chercher Charlie. Et là, il me regarde, il part à toute vitesse, et je le revois une minute après, il ramène la chienne par l'oreille. Je n'en tire aucune conclusion sur mais si vous voulez, ce sont des moments qu'on ne peut pas évidemment partager, comme je le fais avec vous là, parce que je sens très bien qu'il y a un côté ridicule dans la narration de ce moment-là. Mais quand vous vivez seul avec un animal comme ça, il se crée au fil du temps une forme je dirais pas de complicité, mais ce que j'essaie de rendre dans le livre, c'est que la souffrance animale existe, que la solitude animale existe, et qu'à un moment donné, les deux espèces, humaines et animales, peuvent se rencontrer et tout simplement faire un bout de vie commune, comme ça. J'en tire pas d'autres conclusions, il n'y a rien de Brigitte Bardot chez moi, mais il y a, dans un moment de vie particulier, le chien qui vous regarde en vous disant, allez, vous savez, comme dans le concours, le chien qui vous dit, t'as l'air fatigué, laisse tomber. Voilà. Et je vous assure que vivant avec des animaux, il m'est arrivé plein de fois de ressentir cette promiscuité qu'il y a entre les deux espèces. Et quand ma chienne me parle, je l'écoute. C'est idiot, mais je l'écoute au même titre que quelqu'un qui parlerait une langue étrangère et dont j'essaierais de discerner les quelques éléments pour savoir ce qu'elle veut, quoi. C'est idiot, mais je vous assure que c'est pas aussi
Je pense que vous dites, ça me fait penser subitement à une chose, si vous permettez, qui est très loin donc de la sensiblerie avec les animaux. Parce que dans ce livre, ça n'a pas été dit, mais à la fin du livre, Paul est dans une solitude humaine presque totale. Donc il ne trouve d'amitié qu'avec les chiens. Hein, ce sont eux qui deviennent ses amis. Alors je viens de me souvenir d'une histoire célèbre à propos du philosophe Emmanuel Lévinas, que j'ai connu quand j'étais étudiant. Et il raconte quelque part, je ne sais plus où, que pendant la guerre, il était interné dans un camp. Ce n'était pas un camp d'extermination, mais c'était un camp de concentration. Et le regard des gardiens, je pense que c'était des SS, mais enfin le regard qu'il portait sur les hommes était absolument terrible, parce qu'il disait qu'ils ne nous regardaient pas comme des hommes, on était des choses pour ces gens-là. Des choses. Il dit, mais au camp, il y avait un chien qui s'appelait Bobby. Et tous les soirs, quand les prisonniers revenaient d'un travail absolument harassant, creuser des trous, je ne sais pas quoi, épuisés, ils rentraient au camp. Et Lévinas dit que le chien les regardait. Il disait qu'il y avait dans le regard que ce chien posait sur lui quelque chose d'absolument extraordinaire. Et il disait, Bobby était le seul disciple d'Emmanuel Kant qui est resté en Allemagne. Il respectait, il considérait ces hommes comme des hommes. Et ça me fait penser à ça, à ce que vous dites, parce que on est très loin de la sentimentalité. C'est quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Ayant eu moi aussi des chiens, été élevé avec un chien en particulier, je comprends très très bien ce que vous dites. Il y a un affect très fort, mais il peut y avoir quelque chose d'autre, et qui est ce sentiment de compagnonnage qu'on peut avoir avec un animal. Pour un homme, puisque ça c'est votre personnage, hein, qui a rompu tous les liens, presque, avec les hommes. Il y a un très beau livre de Coetzee qui s'appelle « Disgrâce », dont la fin est beaucoup plus atroce que la fin du cas Snyder. Ça n'a rien à voir, mais c'est l'histoire d'un homme qui, à la fin, s'occupe de chiens aussi. Et je pense que c'est pas un hasard, tout ça.
Et peut-être quelque chose qui a à voir avec la compassion aussi.
En écoutant Olivier, moi je repensais à un livre qui parle justement de l'inquiétude animale. C'est une éthologue et une philosophe qui a travaillé là-dessus. Bon, c'est un travail assez scientifique. Et il y avait une explication, moi, qui m'a fasciné et qui depuis me fait... Enfin, qu'on oublie difficilement. C'est-à-dire, nous, en tant qu'humains, on est au monde, mais on a l'inquiétude, on est avec l'inquiétude d'être au monde. Mais tout au long de notre vie, cette inquiétude va nous accompagner, mais toute notre vie va être aussi employée à essayer de la verbaliser, de la maîtriser, et de l'accepter, ou du moins de la comprendre, cette inquiétude. L'animal, c'est ce qu'expliquait cet éthologue, et c'est ça qu'il y avait de fascinant, naît au monde avec la même inquiétude. Mais lui, il ne va jamais pouvoir la formaliser. Et au contraire, toute sa vie, et si on regarde tout le comportement des espèces, on s'aperçoit qu'elles vivent toutes dans l'inquiétude, c'est-à-dire de l'inquiétude de la prédation. Mais elles ne savent pas quel est le prédateur, comment il va arriver, si ça va s'appeler la maladie, le loup, enfin, et donc, toute leur vie va être, dès que la nuit tombe, va être de se placer dans une situation qui va, pendant un temps, les préserver peut-être du prédateur. Et d'espérer que le jour arrive vite, parce que la nuit augmente la chance de perdre justement cette vie. Et quand on essaie, à notre niveau, sans faire de l'ethnocentrisme, essayer de concevoir une vie vécue dans cette inquiétude... on comprend ce qu'est... Enfin, on comprend. On fait un pas vers la situation de ce que peut être la compréhension animale du monde. Quoi. C'est quelque chose de... Enfin, quand on sortait de ce livre, on ressentait véritablement ce qu'était vraiment l'inquiétude. Quoi. Cette capacité de savoir que quelque chose va arriver, mais qu'on ne peut pas nommer, dont on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est là. Et c'est là en permanence. Et vivre constamment avec ça, et chaque nuit qui tombe, s'abriter, essayer de se préserver de ce « ça ». Et ça, je trouve ça très, très, très angoissant. C'est vraiment pour moi le film d'angoisse absolue.
Alors, avant de donner la parole à la salle, peut-être certains d'entre vous ont-ils envie de converser avec Jean-Paul Dubois et Olivier Cohen. Est-ce qu'il serait possible que vous lisiez un passage?
Non, ne lui demandez pas ça.
Sinon, je le fais. Je savais que la dernière fois aussi, vous m'aviez dit que bon, j'ai quand même tenté ma chance.
Je n'y arrive pas. Ouais.
Alors, c'est un moment où le narrateur rentre avec d'une de ses tournées avec ses chiens. Il est donc employé de ce chenil, hein, il est dog walker. La nuit tomba très vite et me surprit sur le chemin qui me menait à présent chez le propriétaire de Charlie. La chienne et moi suivions un sentier forestier. De temps à autre, des amas de neige se décrochaient des branches. On entendait le vent se faufiler entre les cimes des arbres et siffler parfois comme un train en colère. Charlie et moi marchions d'un même pas, concentrés sur notre progression, quand soudain, sans raison perceptible ni signe annonciateur, j'eus la conviction que la vie m'abandonnait, qu'elle se répandait dans cette forêt. Toute ma vie, avec chacune de ses particules. Le froid s'engouffra dans ma poitrine et avec lui, un vide d'une indicible profondeur, une tristesse venue des origines. Mes muscles se relâchèrent, j'eus la sensation une nouvelle fois qu'un câble quelque part se décrochait et je tombais à genoux dans la neige. J'essayais bien de me relever, mais c'était devenu chose impossible. Je ne pouvais esquisser le moindre geste. Je n'avais plus de vie, plus de soutien, plus de famille, rien qui m'aurait aidé à me redresser. Il faisait froid. Tous ceux que j'avais aimés étaient morts. Marie dans l'ascenseur. Nul ne saurait jamais ce que j'avais vu. Ma fille était hors du monde, prisonnière de la mémoire froide. Plus rien ne changerait désormais. Il ne restait que des cendres, que l'on ne pouvait même plus brûler. Les ascenseurs, eux, flambaient dans les nuits de Noël. Les Schneider construisaient des bateaux qui s'en allaient sur l'eau, jusqu'au jour où on les enterrait. Bastian avait fabriqué des avions, jusqu'au jour où on l'avait enterré. Ma mère, elle, était encore souvent près de moi, quand je prenais l'autobus ou que je m'asseyais à mon bureau. Elle essayait toujours de me convaincre que les choses allaient s'arranger, mais ce soir, elle ne disait rien. Il n'y avait plus aucune lumière, seulement l'obscurité. Et la chienne et moi dans la neige, désarticulés. Des larmes coulèrent sur mon visage, mais je ne ressentais aucun chagrin. Durant tout le temps de cette immobilité, Charlie resta assise près de moi. Elle me regarda, comme elle avait toujours regardé les hommes, avec ses yeux noirs, scrutateurs et profonds, des yeux de chien, patient, qui attendait simplement que la vie reprenne son cours. Et, après elle, notre marche vers les lumières des maisons. Pendant ce moment d'absence, mes mains à l'abandon, j'avais lâché la laisse. La chienne était libre, elle n'en profita pas. Ah, donc si on a quelques minutes, peut-être, pour échanger.
Olivier Cohen, vous nous avez fait rêver depuis très longtemps.
Ah bon.
Et vous avez évoqué tout à l'heure ce que vous imaginiez d'être le rôle de l'éditeur quand vous avez commencé, publier des auteurs morts, lire, etc. Sans quoi vous avez changé. Quel est votre rêve aujourd'hui d'éditeur?
Ah. Survivre. Non, je plaisante, mais... Je plaisante qu'à moitié. Non, survivre, pour survivre, il faut de l'imagination. Je pense que on est entré. Ça, c'est une conversation qu'on a parfois avec Jean-Paul, justement, sur le fait qu'on est à une charnière de l'histoire de la culture, avec le fait que les livres, en tout cas un certain type de livres, qui nous ont accompagnés depuis notre enfance, les livres vont continuer à exister, mais disons sur un territoire qui va être plus restreint, et que d'autres moyens de connaissance et de communication sont déjà en train de prendre beaucoup d'ampleur, et que surtout les livres tels que nous les avons connus vont être en grande partie remplacés par d'autres, quelque chose d'autre, qui ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique. Il n'y a pas que ça, hein, mais aujourd'hui, peut-être je rêve moins, mais j'essaye plus d'imaginer, de réfléchir à l'avenir d'une maison d'édition comme celle que j'ai créée il y a 20 ans, dans un mouvement totalement déraisonnable. En tout cas, c'était comme ça que ça m'apparaissait à l'époque. Aujourd'hui, ça m'apparaît comme moins déraisonnable, continuer exige, dans la même direction, hein, continuer exige de réfléchir, d'imaginer et de pas attendre que les choses se passent toutes seules, parce qu'elles ne se passeront pas toutes seules. Ou en tout cas, à ce moment-là, ce qui se passera ne ressemblera pas à ce que nous voulions. Je sais pas, c'est peut-être un peu confus ce que je vous dis, mais... Parce que sinon, je pourrais vous dire, oui, je rêverais de publier un tel ou un tel, mais au fond, certains de ces rêves se sont réalisés. Donc là, je peux continuer à rêver. Je me souviens encore du jour où je relisais la traduction du premier livre de Cormac McCarthy qu'on a publié. Et j'étais chez moi, je relisais cette traduction, et j'étais dans un tel état d'ivresse, quoi, que j'étais obligé de me lever parfois et de marcher. Je descendais, je remontais, je tenais plus en place, quoi. Donc les rêves jouent, pour un éditeur, jouent évidemment un rôle. C'est le désir de publier les auteurs qu'on aime. Puis il y a ceux qu'on découvre, hein, bien sûr. Mais enfin, je nous souhaite, dans les années qui viennent, d'être imaginatifs, inventifs et implacables avec les opérateurs numériques qui sont en train, en ce moment, d'envahir la planète. Et quand je dis implacables, je ne dis pas qu'il faut les ignorer, hein, nous passons des contrats avec eux, mais il faut qu'on soit très très dur. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Oui.
Bien, je crois qu'on va remercier, d'une part vous remercier d'être venu à cette rencontre, et puis remercier Olivier Cohen et Jean-Paul Dubois d'avoir été là. Et je pense qu'on a des choses importantes ont été dites ce soir, et c'était vraiment très agréable. Merci.
Merci.
Merci à vous. Merci.